Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles. En direct, tous les jours, de 10h à midi. On est à la radio, on est à la télé, on est sur le web. Et puis bonjour à vous qui nous écoutez en dehors de France, en podcast. Le programme de l'heure à venir, c'est l'immobilier. En cette période de forte tension sur le marché locatif, que penser de la colocation, du co-living ? Est-il intéressant ? On en parle souvent pour les jeunes actifs. Mais pourquoi pas pour les seniors et pourquoi pas pour vous peut-être, investisseurs. On en discute avec Marie Cœur de Roy et le groupe Bulder dans quelques minutes. Le question-réponse du jour, c'est avec notre ami Grégory Guillemin de la bourse Make It Easy. On vous prend en main. En cas de krach boursier, que faire? Mais oui, les bear markets sont normaux. Il y en a, ils font partie de l'histoire. Les marchés américains, par exemple, en ont subi 36 entre 1900 et 2021. Alors, on répond à vos questions sur comment se préparer à un krach boursier. On investira pour finir sur le marché du carbone, le marché du carbone réglementé. Comment accéder au marché européen qui était jusque-là, jusqu'à il y a peu, inaccessible aux particuliers? Réponse avec Omayo. Il y a aussi vous. Vous êtes très nombreux et nombreuses à nous écrire depuis ce matin sur les penny stocks notamment. Vous réagissez aussi à ce que Laurent Schwartz du comptoir national de l'or nous a dit. Merci pour vos réactions. Elles viennent infuser cette émission. Vous continuez à nous écrire. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr mais aussi sur LinkedIn en message privé. Je vous lis. Nous partons rejoindre Antoine du côté d'Euronext.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Cher Antoine, on vous retrouve à Euronext avec un marché toujours un petit peu indécis, mais dans le vert néanmoins.
Oui, un vert palichon pour le CAC 40, mais enfin, qui a un rebond qui a le mérite d'exister, vu qu'on sort quand même d'une séance qui était pas très très glorieuse hier. Hein. On a perdu 0,9%, on a senti un petit coup de froid hein, du côté des investisseurs, plus 0,16%. Hein. Pour le CAC, on est à 8143 points, marché un petit peu plus décidé, encore une fois, depuis le début de la séance, hein, du côté de Francfort, qui prend 0,23%, et plus 0,35% pour l'Eurostock 50. À noter que la volatilité continue de grimper doucement du côté du VIX, l'indice américain qui la mesure, on passe le cap des 15 points. Donc attention aux mouvements un petit peu spectaculaires qui pourraient se dégager de la tendance actuelle, hein, avec bien entendu des taux obligataires qui continuent à rester tendus après des chiffres économiques plus vigoureux qu'attendus aux États-Unis et en Europe. Et puis aussi la pointe de risque géopolitique hein, qui fait s'envoler les cours du brut au-delà des $89 hein, pour le Brent et qui fait signer, alors vous en avez beaucoup parlé, hein, de nouveaux records historiques au-delà oui. des 2300 points. Encore ce matin, plus forte hausse du CAC, c'est Edenred, plus 1,28,49. 9,91, Saint-Gobain plus 1,12 à 72,26, mais alors encore une fois le secteur de l'aéronautique et de la défense, en particulier Thales qui gagne 1,24% à 159,25€. En baisse, on retrouve Stellantis moins 2,12, 24,94, Unibail, Damco, Westfield moins 1,68 à 72,60. Les deux plus fortes baisses du SBF 120, Atos qui connaît encore une séance difficile à moins 1,8%, quasiment 5% de baisse, et Air France KLM qui est victime d'un abaissement de recommandations d'objectifs de cours. Air France KLM qui recule de 2,8% à 9,60€. Le CAC, donc plus 0,19, on est à 8145 et l'euro 1,0789, Lorraine.
Merci Antoine, c'est l'heure de votre histoire. On va parler voiture électrique, mais pas de Tesla.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Un chiffre, c'est 100 000 voitures électriques commandées chez Xiaomi. Car oui, Xiaomi se met à la voiture et à l'électrique.
Effectivement, et ça pourrait un petit peu changer la face du monde automobile, parce que Xiaomi fait en fait le lien entre deux des Magnificent Seven américains, d'ailleurs entre Apple et Tesla. Pourquoi ? Parce que Xiaomi, bah, tout le monde connaît, c'est un spécialiste de l'électronique grand public qui se met à la voiture. Alors ça, oui, ça a de quoi étonner. Déjà, premièrement, parce que leur voiture, vous devez la voir à l'écran en ce moment, elle est absolument superbe. Il y avait deux sorties automobiles très très attendues depuis le début de l'année. Il y avait la R5 de Renault qui est très très jolie aussi. Puis Xiaomi, là, il y a eu un effet waouh, comme dirait Anthony Morel qui l'a regardé de près et qui s'y intéresse beaucoup. En fait, cette Xiaomi SU7, c'est peut-être un game changer parce que voilà, Xiaomi est en train de réussir là où Apple a échoué, puisque on le sait, depuis quelques semaines, ils ont complètement abandonné leur projet d'automobile. Enfin, en gros, on n'a jamais vraiment su ce qu'Apple développait parce qu'il y a eu tout un tas de rumeurs qui étaient auto-entretenues en plus par les journalistes eux-mêmes qui trouvaient ça absolument génial. Et comment que Apple se lance dans la voiture, ça aurait eu un côté complètement game changer parce que quand Apple se met à travailler un secteur, c'est pour le transformer, c'est pour y imposer un produit à lui qui va révolutionner l'industrie. Or là, on n'a jamais vraiment su ce qu'il développait. Est-ce qu'il développait une voiture? Est-ce qu'il développait des systèmes d'automation, des systèmes électroniques? Personne n'a jamais vraiment su. De toute manière, tout ça a été mis de côté très très nettement, hein, si on en croit les observateurs. Xiaomi, là, c'est complètement différent parce qu'ils y arrivent de même avec un produit maison qui est frais. Et franchement, vous la regardez, vous la mettez à côté d'une Tesla, vous la mettez à côté d'une Mercedes EQE, vous la mettez à côté d'une Porsche Taycan. Hein, c'est un petit peu leur concurrent direct. Franchement, elle fait plus que le job et on leur fait confiance. Toute l'électronique à l'intérieur et point de vue performance, on s'attend à une voiture qui sera vraiment au niveau. Alors, ça pourrait être le game changer, le premier game changer, parce qu'il y en a un deuxième qui se prépare en coulisses. C'est celui que Sony met au point avec Honda. Alors, eux, en plus, ils ont signé une alliance. Sony a bien compris qu'il ne saurait pas fabriquer des voitures lui-même. Ils signent une alliance avec Honda. Ça s'appelle Afila. Et elles doivent sortir l'année prochaine. Et ça, ce serait véritablement la voiture des geeks, dans le sens où leur dernier truc, c'est qu'on peut la commander avec une télécommande de PlayStation. Ça, Anthony Morel, il va adorer.
Ça va le faire.
Mais le troisième... la troisième marche, ça pourrait être celle de Foxconn. Foxconn, le Taïwanais, qui a des vues aussi sur l'automobile et qui entend préparer des prototypes très fonctionnels. Foxconn, qui est sous-traitant d'Apple. Donc là, l'Apple Car, on pourrait l'avoir, mais directement en Chine. Donc vous voyez, ces projets qu'avait Apple de révolutionner l'industrie, d'être le premier en termes de concepteur d'électronique grand public à révolutionner l'industrie automobile, ben finalement, c'est ses concurrents directs et même un de ses sous-traitants qui sont en train de l'organiser. Alors à chaque fois, avec des projets précis, c'est pas de l'automobile de masse, c'est de l'automobile de niche, mais alors avec des produits qui semblent très très largement aboutis et qui sont très très prometteurs face à une industrie de l'automobile électrique qui est quand même dominée par de tristes SUV, il faut bien dire.
Foxconn qui a présenté des prototypes il y a déjà presque deux bonnes années, si je ne dis pas de bêtises. Et Afila, du coup, la voiture, le modèle présenté par Sony et Honda, Afila, que j'appelle pour ceux qui nous écoutent, A-F-E-E-L-A. On revient sur ce modèle Xiaomi SU7. Moi, qui me fait terriblement penser à une Jaguar Type F, vous voyez, en version un peu...
Oui, c'est un petit peu le même genre, c'est un bio-design assez rigolo. Moi, elle me fait plus penser à la Porsche Taycan, vous les mettez côte à côte, c'est assez frappant.
Bon voilà, ce dossier des voitures de niche, hein, vous le rappelez pour l'instant, que vous suivez de près, parce que évidemment, il raconte quelque chose de l'industrie automobile électrique de l'autre côté, côté Asie. Merci beaucoup Antoine, cette histoire est à retrouver en podcast et en replay d'ici quelques minutes sur notre site, ainsi qu'une grosse partie de cette émission. C'est l'heure de parler d'immobilier. Marie Cœur de Joie, Cœur de Roi nous rejoint. Merci.
Tout pour investir, la place de l'Immo.
Bonjour Marie Cœur de Roi.
Ouais,
pleine de jour.
Bonjour Lorraine, bonjour.
C'est l'heure de partir et de parler immobilier.
De partir
pas
déjà.
De partir. Pardonnez-moi,
je suis repartie.
Un petit peu à bout de souffle. Marie, j'ai parlé d'immobilier de bureau tout à l'heure. Je voudrais juste vous toucher un mot de là-dessus. Le taux d'inoccupation aux États-Unis, 20%.
Ouais, mais ça dépend de ce qu'ils ont comme bureau. Et puis eux aussi, ils ont été confrontés au télétravail. Donc la question de repenser le bureau, on en a longuement parlé hier.
Mais oui,
c'est un vrai sujet. Non, mais c'est un vrai sujet. Après, on sait très bien où ça reste occupé, parce que ça, c'est des moyennes. Mais typiquement, Paris, et c'est ce qu'on disait avec notre invité d'hier, on est sur un taux d'occupation très élevé. C'est-à-dire, c'est juste du frottement. On est à moins de 3% de taux de vacances de bureau dans Paris intramuros. Donc clairement, il y a des secteurs où effectivement, vous avez un taux d'inoccupation qui est spectaculaire et d'autres où pour le coup, on a besoin d'espace de bureau. Voilà, petit regard de Marie sur ce chiffre américain, évidemment pas français. Nous n'allons pas parler de bureau avec vous ce matin, Marie. On va parler de co-living avec notre invité Maxime Sauvanet. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'investissement chez Builder Investment Group. Avec vous, on va prendre le pouls de ce marché du co-living. Intéressant, pas que pour les jeunes et les jeunes professionnels, n'est-ce pas Marie ?
Oui. N'est-ce pas Marie ? J'ai envie de répondre que oui, mais parce qu'au démarrage, l'idée du co-living, c'était, on va refaire un peu le film, je pense, du co-living, Maxime, parce que c'est toujours intéressant. C'était de réduire nos espaces individuels, élargir nos espaces partagés, pour finalement trouver à la fois une forme d'économie d'usage et en même temps avoir une vraie solidarité, une proximité avec des gens. C'est ça l'idée, l'essence même du co-living.
Exactement, et c'est ce qui fait notamment la différence avec la colocation qu'on a pu connaître quand on était nous étudiants il y a quelques années, en tout cas moi que j'ai connu, dans l'ancien format de la colocation, finalement, on avait chacun notre chambre, on partageait un salon, mais on partageait aussi les sanitaires, on partageait les salles de bain, etc.
Alors bien que Maxime, je vous interromps, mais on a reçu un acteur de ce secteur-là qui fait de la colocation haut de gamme, où là justement ils réadaptent les logements, ces colocataires ERE à la fin, et qui fait qu'on aura des toilettes individuelles.
Exactement, et sauf que le co-living, en plus vous rajoutez toute une partie servicielle et d'animation, c'est là où je voulais en venir. Le co-living est en plein développement, et aussi grâce au Covid, parce que pendant le Covid, les étudiants et les jeunes actifs qui étaient les principaux concernés, ont été les premiers touchés par la solitude pendant de nombreux mois. Ils n'ont plus
voulu... Il y a un enjeu social.
Un enjeu sociétal, un enjeu social, c'est certain.
C'est psychologique, du coup, à vous entendre.
Oui, mais c'est vrai qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ne voulaient plus vivre tout seuls. Ils ont vraiment voulu vivre en communauté pour vivre des moments à plusieurs. C'est ce qui fait que le co-living propose, en plus des espaces privatifs avec salle de bain et sanitaire, ces grands espaces communs qu'on appelle même des espaces communautaires chez certains, avec parfois des coachs de maison, parfois avec des animateurs. Et c'est ce qui répond à cette nouvelle demande.
Mais vous faites quoi dans tout ça concrètement, vous ? C'est quoi votre métier ?
Alors moi, mon métier, c'est d'accompagner les exploitants de co-living dans leur développement immobilier. Chez Builder, on investit dans les actifs qu'on loue ensuite aux exploitants de co-living.
Qui eux-mêmes vont être après avec d'autres locataires.
Exactement. On est relié ensuite contractuellement par un bail commercial avec l'exploitant en question. On n'est pas relié par des baux aux locataires finaux.
D'accord.
Qu'on appelle les co-livers, un peu dans le jargon. Mais on a vraiment cette relation
avec
l'exploitant.
J'ai failli tenter le co-liver, mais je me suis dit non, ça se trouve,
on peut le tenter.
Mais alors du coup, vous êtes depuis combien de temps sur ce créneau-là ? Et justement, on a parlé du fait qu'au démarrage, ça s'adressait plutôt aux étudiants et aux jeunes actifs. On va voir comment cette typologie d'habitants a un peu évolué. Mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez sur l'occupation de ces espaces de co-living versus avant quand c'est né ? Moi, je me rappelle très bien avoir fait des sujets à l'antenne en disant c'est rigolo, ça nous vient des États-Unis, mais...
Oui, mais vous avez raison, il y a encore quelques années, le co-living était plus appréhendé comme un phénomène de mode qu'un véritable phénomène de société ou même une typologie d'actifs à part entière. Aujourd'hui, on parle de co-living comme on parle d'hôtellerie, comme on parle de bureau.
Et on verra ça tout à l'heure quand on se mettra du point de vue de l'investisseur, n'est-ce pas ?
Ouais. Et donc, le co-living a évolué dans ces différentes formes. On parle beaucoup de co-living jeune actif, étudiant, mais aussi de plus en plus de co-living senior, de co-living même inclusif et solidaire, à destination de réfugiés politiques, par exemple, à destination de familles monoparentales, de personnes à déficience cognitive, etc.
Mais parce qu'en fait, vous répondez, alors ça, c'est peut-être un peu engagé ce que je dis, mais peut-être à l'absence ou au manque de moyens donnés par les pouvoirs publics pour créer des structures qui permettent justement à la fois de faire ce lien social et puis d'avoir une offre locative accessible à certains.
En fait. Oui, alors en fait, on répond à plusieurs problématiques. Effectivement, peut-être un manque des pouvoirs publics sur l'accompagnement de certaines personnes en situation de fragilité. On répond aussi, pour les étudiants jeunes actifs, à une tension locative sur le marché qui est extraordinaire aujourd'hui. On a, je crois, en France, depuis 5 ans, moins 50% d'offres locatives. En Ile-de-France, en un an, on a quasiment une offre sur deux qui a disparu. Et dans le même temps, on a le co-living qui passe de 2600 lits en 2020 à plus de 25 000 lits en 2025.
À l'échelle française.
C'est une projection. On y arrive. Ce sont des projections qui sont sécurisées aujourd'hui, qui sont en cours de rénovation, qui sont en cours de construction pour, si on étudie à la fois le neuf et la réhabilitation. Mmh. On est un peu plus sur la réhabilitation chez Builder. Mais cette tendance est là et ne va faire que s'accentuer. On a des seniors, une population démographique senior qui augmente. Hein, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais on connaît tous l'évolution de cette population-là. Et ce qu'on sait un petit peu moins, c'est qu'on va avoir 300 000 étudiants de plus dans les prochaines années, où finalement, cette problématique de logement qui est déjà très importante aujourd'hui parce que les étudiants n'arrivent pas à se loger, on arrive à des situations qui sont très tendues dans les prochains mois. D'autant plus que cette population, si je peux me permettre, est moins considérée par les bailleurs classiques parce que moins de revenus, parce que souvent célibataires, donc un revenu sur deux en moins. Donc ce sont des dossiers qui ne sont pas prioritaires. Quand vous avez 50 personnes qui vont visiter un studio aujourd'hui à Paris, le bailleur classique, on ne peut pas lui en vouloir que de privilégier le dossier qui est le plus
sécurisant. Mais pourquoi vous allez le prendre? Vous parliez par exemple typiquement des mères célibataires avec enfants. Ouais.
Alors, c'est pas moi qui vais le prendre, c'est l'exploitant.
Bien sûr, mais pourquoi j'aurais plus de chance, moi, mère célibataire avec deux enfants, d'obtenir un logement dans un co-living, avec accessoirement la question de comment ça se passe, j'ai trois chambres, enfin voilà.
Oui.
Et pourquoi ça serait plus simple dans une structure de co-living plutôt que...
Alors, premièrement, les exploitants qui vont sur ces créneaux-là, ils vont par conviction.
C'est du profiling.
C'est du profiling, exactement. Deuxièmement, il y a quand même une étude qui est faite au niveau des salaires. Alors, on n'est pas sur un ratio de 1 à 3. Hein. On n'a pas de caution bancaire derrière, qui peuvent être les parents ou quelqu'un de la famille.
C'est-à-dire, on est sur un ratio de...
On est sur un ratio de 1 à 2, et puis on y va surtout sur le profil et sur les situations d'urgence. Les réfugiés politiques, les familles monoparentales, on est là, enfin, quand je dis on, les exploitants en question sont là pour les aider avant tout. Ensuite, ils prennent leur part de risque. On est quand même sur des baux qui ne sont pas des baux classiques 3, 6, 9.
Alors,
on est souvent sur des baux d'un an meublés, ce qui fait qu'il y a une période aussi assez courte sur le risque.
Donc ça veut dire que c'est plus simple, on va dire les choses très clairement. On disait hier que c'était la fin de la trêve hivernale. Ça veut dire que c'est aussi plus simple pour l'exploitant s'il a un locataire ou un co-liveur qui ne paye pas ou qui a des difficultés de pouvoir lui dire au revoir.
Un, c'est plus simple. Deuxièmement, on est dans une vraie situation humaine. Moi, je vois comment ça se passe avec les exploitants. Ils se connaissent tous avec leurs locataires, ils s'appellent régulièrement, il y a une vraie relation qui naît de tout ça. Et quand on y va par conviction, on n'est pas là pour mettre les gens dehors. Et je vais vous dire un chiffre, les exploitants avec lesquels on travaille en tout cas, ont 0% d'impayés. Parce que, mettez-vous en tête aussi que quand vous êtes en co-living, vous partagez les espaces avec d'autres personnes. Donc si vous ne payez pas, il y a aussi ce sentiment un peu de gêne qui peut apparaître, et c'est ce qui fait que...
Oui, on a une forme de
respect.
Voilà, c'est ça. Et puis on sait que si moi je fais mal, ça va retomber sur les autres.
Et puis on est reconnaissant vis-à-vis de son exploitant qui nous accueille au final, qui a accepté qu'on puisse venir, alors que sur d'autres actifs, on n'aurait jamais été priorisé.
0% d'impayés, un an de bail en meublé, ça veut dire qu'il y a quand même une saisonnalité, on imagine, avec des appartements qui tournent sur... une saison scolaire, si je puis dire.
Alors, une saison scolaire, une saison de stage, une saison de mission, même pour les jeunes actifs. On est sur des durées de séjour qui vont entre 7 mois et 12 mois, généralement, dans le co-living. Après, c'est pas pénalisant du tout par l'exploitant ou pour l'investisseur, parce qu'on a une telle liste d'attente derrière que finalement, il va y avoir une période de non-occupation qui va être très faible.
D'accord,
de l'ordre
mais
de quelques jours,
le temps de remettre un petit coup de frais. Voilà, le coup de frais.
Ouais,
quand il y a beaucoup de turnover, on sait qu'on a aussi des dégradations qui sont peut-être...
Oui, alors... On n'est pas à 100% de taux d'occupation, on est entre 95 et 97. Le delta se fait justement sur ces quelques jours de non-occupation. Ensuite, les exploitants de co-living mettent un effort tout particulier sur la décoration, sur l'accessoirisation, sur le choix des meubles et la décoration. Donc, les gens qui y vont, ils sont très respectueux également. Comme tout à l'heure, on parlait du non-paiement des loyers, on respecte le lieu parce qu'on le partage aussi avec les autres et parce que tout le monde devient ami ou quasiment dans ces lieux-là, donc on n'est pas là non plus pour dégrader ou pour l'espace des autres.
Je voudrais juste revenir sur le profil de co-liveur qui pourrait devenir celui de senior co-liveur. Comment on intègre une co-location.
Oui, on va dire ça. Oui, un co-living.
Un co-living en tant que senior. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses dans le mot senior. On est déjà assez moche, ok, mais je veux dire, c'est pas la même chose d'être senior à 50 ans, d'être senior à 60, d'être senior à 70.
Et est-ce vraiment senior à 50 ans d'abord?
Oui, au sens de Pôle emploi, c'est 45 ans, ma chère Marie.
Super,
voilà, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que quand on dit ça va être une alternative, peut-être pour certaines personnes, disons, au-dessus d'un certain âge, qu'est-ce qui est une alternative à quoi? À un endroit, à vivre isolé.
Alors, on entend par co-living senior le co-living qui s'adresse généralement aux personnes retraitées et souvent plus de
60 ans. Plus de 60, ouais, 65.
Plus de 70, 75 ans. On voit que la moyenne d'âge à l'entrée est généralement entre 72 et 74. C'est une nouvelle voie qui est en train de s'ouvrir. Clairement, c'est une voie qui s'est déjà ouverte il y a plusieurs années dans les pays scandinaves, Suède, Norvège, qui est descendue au Benelux, qui est descendue en Allemagne et qui arrive chez nous aujourd'hui en France. C'est une nouvelle voie qui s'ouvre donc entre le maintien à domicile, qui reste largement plébiscité par les seniors, l'EHPAD privé et la RSS, qui est la résidence service senior. Le co-living senior est une solution dans le sens où c'est une solution pérenne. Vous y entrez quand vous êtes encore autonome, mais les solutions vont vous accompagner vers la perte d'autonomie et donc jusqu'à l'entrée en EHPAD et vraiment quand les soins médicaux et l'accompagnement médical très poussé est nécessaire.
Parce que vous avez des services associés aux besoins des personnes âgées ?
Oui, il y a un accompagnement de la part de nos exploitants avec du personnel 24-24 sur place, avec une présence de nuit, avec la venue d'infirmières également pour les soins du matin, la toilette du matin, etc.
Ah oui, donc c'est pas juste...
C'est une solution qui est là pour lutter contre la solitude de ces seniors qui est confronté à une espèce de mort sociétale assez importante. Hein. Vous êtes loin du cercle familial parfois, vous avez vos amis qui disparaissent malheureusement au fur et à mesure des années. Et en plus de lutter contre la solitude, vous avez vraiment cet accompagnement humain et médical qui fait que... Pourquoi c'est une vraie solution le co-living senior ? C'est qu'avant, vous rentriez en résidence service senior, puis ensuite déménager vers un EHPAD quand finalement vous n'en aviez pas nécessairement besoin. Il y a presque 80% des entrées en EHPAD qui sont faites malgré la volonté du senior d'y aller.
Ouais,
c'est un chiffre qui est assez affolant aujourd'hui. Je crois que c'est même 82 le chiffre. Donc le co-living senior, vous y entrez en tant que senior autonome et vous y sortez quand vraiment l'accompagnement médical est
nécessaire.
Ouais.
Juste, on parle de la typologie des co-livers. Moi, j'aimerais bien parler aussi de ceux qui peuvent investir, parce que c'est vrai que nous, on s'adresse quand même à des potentiels investisseurs.
Oui.
Là, à chaque fois qu'on parle co-living, on n'a que des grands groupes, soit qui achètent, soit qui exploitent, machin, etc. Moi, investisseuse particulière, est-ce que j'ai des possibilités pour investir dans le co-living ?
Oui, via notamment l'immobilier fractionné, qu'on propose notamment nous sur notre plateforme chez Builder. En fait, on propose des opérations de co-living, notamment une opération de co-living senior. En ce moment, là, qui va arriver, on a signé une promesse à Orléans, un très bel hôtel particulier de 460 m² datant du 19e siècle, vraiment l'hôtel particulier dans toute sa splendeur.
Alors le ticket d'entrée côté investisseur et le ticket d'entrée côté co-living.
Oui, alors je voulais apporter une précision. Nos investisseurs, en fait, n'investissent pas dans un produit immobilier. On fait une émission obligataire sous forme d'obligations simples indexées qui suivent la performance de l'actif, dont la performance dépend donc des loyers et du rendement et même parfois même de la plus-value à la revente.
Ouais.
Et ce qui fait que l'investisseur, en fait, n'est pas assujetti sur la fiscalité des valeurs mobilières, est assujetti sur les valeurs, sur la fiscalité des valeurs mobilières, et non pas sur l'IFI. Le ticket d'entrée, 5000 euros sur notre plateforme. Tout
avec
particulier peut y aller à partir de 5000 euros.
Exactement.
Et sinon, vous pouvez investir toujours sur Builder via votre conseiller en gestion de patrimoine pour les plus fortunés à partir de 100 000 euros.
Ah ouais. Et en fonction de ce que j'investis, ça me fait penser un peu à une SCPI quand même, même si on est typiquement sur un produit en particulier. Mais là, typiquement, en fonction au prorata de ce que j'aurais investi, je toucherai un rendement à quelle échéance ce sera?
Alors,
tous les mois, tous les trimestres, tous les ans?
Tous les trimestres, c'est du couponnage trimestriel. Sur un rendement net entre 6 et 8%. Par exemple, Orléans, là, qu'on propose dans quelques jours, dans quelques semaines, ça sera du 7,1 net.
Intéressant quand même, hein ?
Oui.
Quand on fait le distinguo avec, par exemple, les SCPI en ce moment.
Oui, intéressant, mais en fait... Le taux d'occupation est très bon, la rapidité de commercialisation est là parce qu'il y a une véritable demande et on a des loyers qui sont sécurisés parce que on a un bail avec notre exploitant. Cet exploitant a tous ces lits qui sont finalement remplis et sur du turnover en plus qui est moins important.
Mm-hmm.
Quand vous avez un co-living senior, les personnes restent des années, des
elles
mois,
restent beaucoup plus longtemps
années,
qu'un
voilà,
co-living
et c'est ce qui sécurise notamment.
Voilà, vers une projection du nombre de lits en co-living, parce que c'est comme ça qu'on mesure, vers 24 000 lits, c'est presque x 10 en 4 ans. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce concept de co-living qui peut être intéressant pour les jeunes actifs, mais aussi peut-être pour les seniors. C'est une autre philosophie de fin de vie, ou en tout cas de vie. Merci beaucoup, Maxime Sauvanet, directeur d'investissement du groupe Builder, Builder Investissement Groupe. Marie, merci beaucoup. À demain.
À demain.
Même heure pour continuer à parler d'immobilier. Nous allons marquer une rapide pub. Et après ça, on va s'occuper de comment se préparer à un krach boursier. Juste après la pub. Revenez très vite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Comment se préparer à un krach boursier ? Non, ça n'est pas une chronique catastrophique. Simplement, voilà, vous le savez. Après des records en bourse, souvent, il y a une descente. Est-ce que cette descente sera prochaine ? On ne le sait pas. En tout cas, on vous outille pour savoir comment réagir en cas d'un bear market avec Grégory Gulemin. Bonjour Grégory.
Bonjour Lorraine.
Le fondateur de la bourse Make It Easy, depuis la Belgique avec nous par Skype. On va être pédagogique, puis on va remettre un petit peu en contexte pourquoi on fait cette chronique, cher Grégory. Parce que les bourses sont plutôt dans le vert, elles se portent bien. Pourquoi faut-il aborder ce sujet, même si tout va bien ?
Ben, effectivement, les bourses se portent super bien. Les bourses ne font que monter. On l'a vu 2023, on le voit en ce début d'année-ci avec des performances à deux chiffres pour beaucoup d'indices boursiers. Ce que je vois aussi, c'est que les gens sont très bullish, donc plutôt même parfois avides de gains rapides. Et moi, j'aime bien simplement rappeler que les crashs boursiers, en fait, font partie de l'histoire, qu'en moyenne, il y a un crash boursier qui arrive tous les 3 ans et demi, 4 ans. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les 3 ans et demi, 4 ans, il y a une chute de minimum 20% entre le point le plus haut et le point le plus bas qui s'ensuit. Alors, ce qui est difficile à savoir, c'est que finalement, la bourse, ce n'est pas une science exacte. Donc, c'est impossible de prédire quand ça va passer. Mais quand je vois tellement d'optimisme sur les marchés financiers, j'aime bien rappeler de manière régulière qu'il ne faut pas oublier les crashs boursier et le crash qu'on a connu en 2020 où après 4 semaines le marché a rebondi était un petit crash et il faut se rappeler qu'il y a à peine depuis l'année 2000 on a connu deux grands crashs boursiers et c'est important d'être prêt.
Soyons dans la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un krach boursier ? Qu'est-ce que c'est qu'un bear market techniquement ?
Techniquement, c'est quoi un crash boursier ? Ben, en fait, ça représente une chute d'un indice boursier, comme l'indice S&P 500 représente les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis, eh ben, c'est une chute de minimum 20% entre son point le plus haut et son point le plus bas qui s'ensuit. Prenons un exemple concret avec l'année 2020 où le marché, le S&P 500 a bien débuté. Et puis entre le 19 février 2020 et le 23 mars 2020, la bourse en un peu plus de 4 semaines a chuté de plus de 34%. Donc là, à ce moment-là, on était ce qu'on appelle dans un crash boursier ou dans un bear market. C'est la même chose. Ça signifie vraiment qu'on est dans une situation où un indice boursier a chuté de plus de 20% par rapport à son point précédent le plus haut.
Vous nous le disiez, ces krachs, ils sont normaux, ils font partie de l'histoire de la bourse. Vous avez identifié qu'ils arrivaient à peu près tous les 3 ou 4 ans. Les marchés américains ont connu 36 krachs depuis 1900 jusqu'à 2021. On arrête le compteur à 2021 pour cette statistique. Pourquoi est-ce que ça fait toujours aussi peur le mot krach, et je suis sûre que la titraille qu'on a choisie pour cette séquence, comment se préparer pour un krach boursier, va nous attirer beaucoup de clics parce que les gens vont se dire ah ça y est, enfin le krach boursier arrive. Pourquoi est-ce que ça fascine ? Pourquoi est-ce qu'on l'anticipe ? Pourquoi ça fait peur ? Et pourquoi il y a un petit peu d'excitation ?
En fait, pourquoi ça attire les foules ? Simplement parce qu'on joue sur la peur. Et ici, on prend, si on met que des articles, par exemple, où la bourse ne fait que monter, généralement, l'être humain va dire « Ok, très bien, ça ne fait que monter, tant ouais. mieux. » Par contre, quand on parle d'un krach boursier, c'est potentiellement une perte, une diminution de ses investissements, plus ou moins importante. Et c'est lié, pour moi, à l'aversion aux pertes. L'aversion aux pertes, c'est le fait que la douleur éprouvée en fait par des pertes est deux fois plus importante que le gain, que le plaisir éprouvé par des gains. Mmh. Donc si demain, Lorraine, vous perdez 100 euros en bourse, vous aurez deux fois plus mal que si après-demain, vous gagnez 100 euros en bourse. Et donc, c'est vraiment pour ça que ça fascine, parce que ça fascine aussi dans l'histoire émotionnelle, je veux dire, des personnes, mais aussi parce que les crashs boursiers, on sait que ça arrivera un jour, mais on ne sait pas quand ça arrivera et on ne sait pas par quel canal ça arrivera. Personne n'avait pu prédire en 2019 qu'il y aurait un crash boursier lié, je dirais, au premier confinement et au Covid. Alors, bien entendu, il y a eu des oiseaux de mauvais augure en 2005-2006 qui parlaient des subprimes, mais on peut s'interroger sur certaines bulles à un moment donné, mais on ne sait pas si une bulle finira par exploser et si oui, quand elle explosera. C'est impossible de savoir, malheureusement. En tout cas, moi, ma boule de cristal est cassée. Depuis longtemps, comme vous le savez.
Nous n'avons pas de poule de cristal. On essaye simplement de faire de l'éducation financière avec Grégory Guillemin dans cette séquence. Un krach boursier, il faut le dire, il faut le répéter, ça n'indique pas spécialement une récession économique. Un marché peut être bear, on peut être en krach boursier, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on entre ou qu'on est au cœur d'une récession.
Oui, effectivement, si on prend le cas encore de 2020, quand le marché a chuté de plus de 30% en 4 semaines, à ce moment-là, on n'était pas du tout dans une récession économique. Alors là, il y a eu effectivement des ralentissements qui ont suivi, mais au moment où ça a chuté, la croissance mondiale du produit intérieur brut en 2019 était positive. Donc, c'est vraiment important aussi de se rendre compte que c'est pas parce qu'il y a un crash boursier qu'il y a une récession économique. Les deux ne sont pas spécialement liés. Parfois, il y a des récessions économiques, mais il y a l'intervention des banques centrales qui fait que les marchés financiers sont soutenus. Et parfois, il y a des exubérances de marchés qui peuvent arriver et qui se corrigent et qui font que la bourse chute de 20, 25 ou 30%, mais qui ne va pas spécialement miner la consommation des particuliers, les investissements des sociétés, et donc ça ne va pas miner et diminuer le produit intérieur brut.
On continue à chiffrer et à déchiffrer ce sujet des krachs boursiers, Grégory, avec vous. Un krach boursier dure en moyenne 10 mois. Alors, quand on est investi, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Pouvez-vous nous donner quelques conseils pour survivre au cœur, par exemple, des 10 mois que dure un krach boursier?
Je dirais le premier conseil à faire durant un krach boursier, c'est si possible, continuer à investir tous les mois via la plateforme de votre choix de manière automatisée. C'est l'avantage de l'automatisation parce que ça permet de limiter, je dirais, l'impact émotionnel et l'impact de nos émotions sur notre portefeuille. Ce qu'il faut faire également quand il y a un krach boursier, ou plutôt ne pas faire, c'est ne pas regarder son portefeuille tous les jours. Ça ne va rien vous apporter de regarder votre portefeuille tous les jours, matin, midi et soir. La seule chose que ça pourrait vous apporter, c'est de la peur, de l'anxiété, et à un moment donné, vous avez tellement peur dans votre cerveau que ça vous fait prendre une décision drastique qui est à un moment donné de vendre à moins 20, moins 25, moins 30%, parce que psychologiquement, vous n'êtes plus capable de vivre avec cette peur-là. Votre cerveau, il est là pour tenter de vous protéger. Par contre, en bourse, avec beaucoup de peur à un moment donné, on peut être tenté de vendre, ce qui est la plus mauvaise décision à faire. Toute chose égale par ailleurs, il faut voir la composition, bien entendu, du portefeuille derrière. Troisième point important, si vous êtes investi quand les marchés viennent à chuter, c'est peut-être de regarder BFM Business une fois tous les deux jours ou une fois par semaine, mais pas rester sur BFM Business, désolé pour vous Lorraine, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Et je vais couper, parce qu'on va parler énormément.
on va parler énormément, je dirais, du rouge, on va parler énormément de ce qui ne va pas, et ça pourrait encore engendrer des émotions de peur dans notre cerveau, et cette émotion de peur, à un moment donné, peut nous faire cliquer sur le bouton « tout vendre », parce qu'on va se sentir rassuré d'avoir tout vendu, parce qu'on aura tout vendu, on ne pourra plus perdre. Oui, mais le problème, il y a deux problèmes, c'est qu'on ne profite pas du rebond potentiel qui peut arriver, puisque sur des indices diversifiés très larges, il y a toujours eu des rebonds. Parfois, il faut attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais les rebonds arrivent. Et le deuxième point important, quand vous vendez à perte comme ça, à moins 25, moins 30, moins 35, moins 40%, vous ancrez dans votre tête très fortement, en fait, vous ancrez un souvenir très négatif lié à la bourse et vous allez avoir une émotion négative liée à la bourse qui ne vous fera peut-être probablement plus jamais investir en bourse parce que vous pensez que la bourse est responsable alors que ce sont vos émotions qui ont pris le dessus et qui ont décidé de vendre.
Voilà, ne pas changer finalement ses habitudes d'investissement, si on en a déjà et si elles sont automatisées, ça c'est un de vos conseils. Pas de décision brutale, évidemment, rester patient et calme. Et puis, quelque part, vous nous dites qu'il faut changer ses habitudes d'accès à l'information boursière. Mais une bonne information boursière, elle peut être factuelle et pas être dramatique. Après, c'est notre perception du rouge.
Bien entendu, et c'est pour ça aussi que je dis simplement, si vous souhaitez voir durant des marchés baissiers, voir ce qui se passe, regardez peut-être le mercredi et le vendredi ce que votre portefeuille a fait, ou lisez la presse économique, regardez BFM Business, mais j'ai vu des gens en 2020 regarder BFM Business matin, midi et soir durant justement la crise du Covid, et ça a impacté, je pense même à quelqu'un qui a vendu l'entièreté de son portefeuille le 12 mars 2020, qui est à nouveau rentré sur les marchés financiers fin de l'été, c'est-à-dire qu'il a réinvesti en actions fin d'été. Son manque à gagner pour cette personne-là, c'est 12% de performance sur l'année 2020. Cette personne-là a un patrimoine plus important que la moyenne, ça se chiffrait en millions d'euros. Donc mon point est simplement de dire, c'est important en fait de d'abord comprendre les krachs boursiers, que ça fait partie de l'histoire. Il y a toujours eu des krachs boursiers et il y en aura toujours, c'est normal. Et quand on a compris ça, oui, on peut suivre l'actualité financière pour comprendre ce qui se passe, mais de pouvoir mettre une sorte de filtre entre l'actualité financière qui est factuelle et nos propres émotions qui pourraient interpréter l'actualité financière et nous faire prendre de mauvaises décisions.
Voilà, le temps est votre ami, tout comportement impulsif est votre ennemi. On finira avec cette citation de John Bogle, relevée par notre ami Thomas Veillet depuis la Suisse. Merci beaucoup Grégory Guillemin pour ce coaching, ces questions-réponses sur comment se préparer à un krach boursier. Grégory, fondateur de la bourse Make It Easy, autre source d'information pour être meilleur épargnant, meilleur investisseur. Merci beaucoup Grégory, cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur le site BFM Business et sur l'application. N'hésitez pas à vous refaire une petite dose de coaching avec lui. On va finir cette séquence en parlant du marché carbone européen. Car oui, en tant qu'investisseur particulier, on y a accès. Mode d'emploi dans quelques secondes.
Tout pour investir. Investir autrement.
On va parler du marché carbone. Car oui, il est l'objet de beaucoup de fantasmes et beaucoup de l'histoire au cinéma et sur vos plateformes, ce marché carbone, mais il nous concerne en tant qu'investisseur particulier. Pour le décrypter, Valentin Lautier est avec nous. Bonjour Valentin.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le fondateur d'OMAIO. H-O-M-A-I-O, pour ceux qui nous écoutent à la radio et en podcast. Avec vous, on va essayer de comprendre ce marché carbone, ou plutôt ces marchés carbone au pluriel, qui n'étaient pas accessibles aux investisseurs comme ceux qui nous écoutent, comme vous, comme moi, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Racontez-nous comment vous êtes tombé dedans.
Eh ben, complètement par hasard, en fait, j'ai un peu trébuché sur le marché en lisant un article dans un journal. Et Et en effet, vous avez dit ces marchés. Donc le marché dont je parle est le marché européen, le marché, le système d'échange de quotas d'émissions européens, en fait. Et c'est un marché sur lequel on ne pouvait pas investir. Lorsque moi, je suis, j'ai trébuché sur ce marché, j'ai voulu accéder au marché, j'ai voulu acheter des permis carbone européens, voyant deux choses. La première était que c'était des permis, donc des actifs qui s'appréciaient quelque part par construction, et en même temps qu'ils avaient un impact réel sur les trajectoires d'émissions. Et donc j'ai voulu y investir et j'ai réalisé que je ne pouvais pas, et donc j'ai créé Omayo pour répondre à ce problème, c'est-à-dire permettre à des gens comme vous et moi d'accéder au marché carbone européen et ensuite à l'ensemble des marchés carbone régulés à travers le monde.
Valentin, vous allez nous expliquer pourquoi, en tant qu'investisseur particulier, au masculin et au féminin, on pourrait être intéressé de mettre des billes sur ce marché carbone.
Pour plusieurs raisons. Comme je l'ai dit, c'est un marché qui est régulé, qui est mis en place par l'Union européenne, donc par des juridictions, qui organisent la décroissance de l'offre. C'est-à-dire, il y a de moins en moins de permis disponibles dans le temps. C'est un actif qui est donc déflationniste et qui, du coup, par construction, s'apprécie dans le temps. Donc, si on regarde les 10 dernières années, c'est un marché qui a fait plus de 25% par an, en moyenne, en termes de performance. Donc, c'est intéressant. C'est aussi le pilier de toute la stratégie climat de l'Union européenne. Donc, c'est un marché qui a un impact direct, réel, sur les trajectoires d'émissions. Et donc, si on souhaite à la fois investir dans des actifs liquides avec une faible corrélation et qui s'apprécient, mais aussi avoir un impact sur les émissions, c'est un super actif. Et peut-être un dernier point, on l'a dit, c'est le pilier de la stratégie climat de l'Union européenne, c'est un sujet qui nous concerne tous, et pour autant, c'est un marché qu'on connaît mal, dont on parle assez rarement, et je pense qu'il y a un intérêt politique et un intérêt social à permettre à ceux qui sont les premiers concernés, c'est-à-dire les individus, à participer à ce marché.
Il faut dire que pour préparer cette interview, j'ai regardé un petit peu des éléments disponibles sur le marché du carbone, notamment sur les sites de l'Union européenne. C'est assez cryptique. Rien n'est fait pour évangéliser, démocratiser, il faut choisir le bon verbe, ce marché. On a l'impression que c'est un marché très technique, qui est obscur. Le fait que ce soit en plus, géré par l'Union européenne ne donne pas forcément beaucoup d'envie aux investisseurs particuliers. Pourquoi on y va ? Vous nous parlez de rendement. Est-ce que le rendement peut être si intéressant qu'on y va les yeux fermés ?
Alors, on n'y va pas les yeux fermés. Je pense qu'il y a peu d'actifs dans lesquels on va les yeux fermés. C'est en effet un marché un petit peu technique, assez peu connu, sur lequel il n'y a pas énormément d'informations disponibles, ou en tout cas, il y a une certaine technicité, une certaine opacité. Donc, on y va en s'informant d'abord. Et c'est aussi une des raisons d'être d'Omayo, c'est le rendre accessible, c'est-à-dire le rendre intelligible. C'est un marché qui couvre 1,5 milliard de tonnes d'émissions, 40% des émissions européennes, qui couvre à peu près toutes les industries européennes, qui couvre le transport maritime, une partie du transport aérien. Donc c'est un gros marché. Et pourtant, comme vous dites, il est complexe, il est un petit peu opaque, il est cryptique. Et du coup, si on y va, c'est tout d'abord en s'informant sur le marché.
Soyons bien pédagogiques. Ce qu'on achète quand on investit sur ce marché, ce sont des permis carbone, ce sont des bouts de quotas, des quotas en fait. Et ça prend quelle forme ? Ça occupe quelle place dans un portefeuille ?
Alors, c'est exactement ça. On achète des permis carbone. Donc, ces permis sont émis par l'Union européenne et doivent être détenus, puis restitué par l'ensemble des industriels assujettis à la fin de l'année en fonction de leurs émissions. Mmh. La quantité totale de permis disponibles sur le marché diminue année après année. Et ce que nous, on propose, c'est aux investisseurs particuliers d'accéder à ce marché. Donc nous, on va détenir des permis carbone dans un compte de permis. Alors, c'est pas un compte bancaire, c'est pas un compte titre, c'est un compte de permis. Et la forme que ça prend, c'est celle de ces permis. Alors, quelle place dans un portefeuille ? Ça reste un actif, encore une fois, assez peu connu. Donc, c'est un investissement alternatif. On va pas placer tout son portefeuille dedans.
De la pyramide patrimoniale, on est dans l'étage diversification.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est un super produit de diversification parce que c'est un actif qui est liquide et qui a une très faible corrélation aux autres grandes classes d'actifs. Donc, pour un investisseur qui cherche à diversifier son portefeuille en investissant dans un produit plutôt de long terme, qui s'apprécie sur des temps longs, qui a une forte volatilité, il faut le rappeler, sur des temps courts, et qui a un impact réel sur les émissions, c'est un super produit d'investissement.
Vous nous parliez de rentabilité. La valeur de ces permis carbone, sur 10 ans, elle fait plus 25%. Est-ce que vous pouvez nous dire la même chose avec d'autres mots ?
Il y a 10 ans, le permis était autour de 4 euros, je crois. Aujourd'hui, il est, alors il était il y a quelques jours autour de 60. Là, il est à 55, 56. C'est là où je disais qu'il y a une volatilité forte à court terme. Mais grosso modo, ça a fait x10 en 10 ans. Donc plus 25% par an en moyenne.
Qu'est-ce que cette performance dit de la stratégie climat de l'Union européenne ? Quelle est la corrélation entre les deux ?
Eh bien, qu'elle fonctionne. Parce que, en fait, plus le permis est élevé, plus les industries assujetties, soumises par le règlement européen à ce marché, sont incitées pour décarboner. En fait, il faut voir le niveau de prix comme une sorte de point d'arbitrage entre la décision d'investir dans les solutions de décarbonation ou la décision d'acheter et de restituer des permis. Et donc, tout le jeu, tout l'objectif, c'est de faire en sorte que les permis augmentent progressivement.
Le futur de ce marché du carbone européen dont on parle, comment l'envisagez-vous ?
Alors, c'est un marché qui déjà a tendance à s'étendre. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de secteurs industriels qui y sont assujettis. Depuis le début de l'année, c'est le transport maritime et il y a d'autres extensions prévues. Il y a d'autres marchés, d'ailleurs, qui sont prévus également pour couvrir le transport routier, le chauffage des bâtiments, éventuellement l'agriculture. Et encore une fois, par construction, il faut que les prix augmentent pour que on ait une incitation de plus en plus importante à décarboner. Pour que ça ait lieu et pour que le marché continue à être efficace et à remplir ses promesses, il faut, à mon avis, qu'un grand nombre de personnes s'y intéressent, non seulement politiquement, puisque ça nous concerne tous, mais aussi financièrement, pour permettre à une meilleure découverte du prix, une meilleure efficience du marché, avec une plus grande pluralité des acteurs qui agissent sur ce marché.
À vous entendre, Valentin, c'est pas tant un marché d'investisseurs, c'est un marché de citoyens, en fait.
Exactement.
De gens concernés.
On pourrait le dire comme ça.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour plus promouvoir la stratégie climat européenne et s'assurer, à titre de citoyen et d'investisseur, qu'elle fonctionne bien ?
Je pense qu'il faut continuer à être intransigeant avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les institutions, les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, les industriels, et peut-être un petit peu plus indulgent avec les citoyens, les particuliers. Je trouve que parfois on met le curseur entre intransigeance et indulgence, au mauvais endroit. Et puis il faut bien sûr s'intéresser, comprendre, accéder à ces marchés, y participer, pas forcément financièrement, mais au moins intellectuellement et politiquement, pour pouvoir peser sur les décisions qui sont faites. C'est un marché qui existe depuis 20 ans, qui a eu plusieurs réformes, et pour autant, on n'est pas du tout concerné, en tout cas on y participe très très peu dans l'arène financière ou politique.
Voilà, vous participez à rendre ce marché accessible. On parle d'un produit financier qui permet d'investir sur ce marché. Le produit en soi, c'est un permis. C'est un permis carbone, un permis, un bout de quota d'émission, pour mal le dire, un quota d'émission. Dernière question, est-ce que vous bénéficiez, en termes de notoriété, tout ce qui est fait autour de l'arnaque à la taxe carbone ? Pardon de vous poser la question comme ça.
Alors, je ne sais pas si on en bénéficie. C'est vrai que ça popularise un petit peu l'existence de ce marché. Mais beaucoup de choses ont changé depuis. C'était il y a 15 ans. C'était une arnaque à la TVA, plus qu'à la taxe carbone. Même si
dans le titre, le mot TVA n'est pas resté.
Non, voilà. C'est bien dommage. Et puis en plus, ce n'est même pas une taxe. Donc, mais quelque part, ça permet de faire une sorte de icebreaker, d'ouvrir la conversation. Et assez rapidement, vous l'avez dit au début, il y a beaucoup de fantasmes à déconstruire. Mais au moins, il y a une sorte de familiarité qui existe autour du marché. Je ne sais pas si on en bénéficie, mais en tout cas, c'est vrai qu'on en parle souvent.
Merci beaucoup, Valentin Lottier, le fondateur de Omaio, ce marché du carbone européen qu'on peut s'approprier. C'est la fin de Tout pour investir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, d'avoir participé à cette émission, d'avoir réagi. Si vous l'avez attrapé en cours de route, pas de panique, vous la retrouverez en podcast ou en replay d'ici quelques secondes. Demain, nous serons en dossier spécial avec les Échos. Investir, se loger, emprunter quand on est étudiant. C'est demain dans vos oreilles sur BFM Business et vendredi en kiosque digital ou physique dans les Échos. Il est 11h55. Dans 5 minutes, c'est avec vous, Sofiane Aklouf. Vous prenez les manettes. Quel est le programme du jour?
Eh bien, on va parler d'argent parce que c'est notre sujet préféré.
Non, c'est le nôtre, normalement.
Je sais, justement, on va prolonger votre tranche, Lorraine. Et on va vous demander à vous, téléspectateurs, vous pouvez répondre aussi, est-ce que vous êtes prêts à travailler plus pour gagner plus? Dans votre cas, Lorraine, ça va être compliqué de travailler un peu plus. Ah. Là, ça va commencer à charger la mule. Mais vous, est-ce que vous êtes prêts à le faire? On sait qu'un fonctionnaire sur cinq est prêt. Ça nous rappelle un petit slogan présidentiel qui date d'il n'y a pas longtemps. Et puis on parlera des accidents du travail trop nombreux. On compte 2 décès par jour. Et 100 accidents du travail par an sans blessés. On en parlera avec des solutions concrètes pour éviter de se blesser au travail.
Voilà, on peut travailler mieux aussi, à défaut de travailler plus. Amaury Tonkelec prendra les manettes de l'antenne à 15h pour BFM Crypto Le Club. Amaury, le programme du jour.
On fait que de parler d'argent sur cette chaîne. Parce que je vais parler de comment faire des gains grâce à la finance décentralisée, donc réaliser des prêts et des emprunts, mais sans intermédiaire, de manière totalement décentralisée, sans passer par une banque.
Voilà le programme de BFM Crypto Le Club. On se quitte avec le Bitcoin qui se traite autour de 66 561 dollars. À demain dans Tout pour Investir.
Wow. Tout pour Investir sur BFM Business.